Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour l'animation de cette émission d'actualité scientifique tous les samedis sur l'antenne de Graphite entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez même la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site Internet, donc n'hésitez pas, ça vous permet d'écouter Biotine n'importe où, n'importe quand. Et ça peut être intéressant voilà, d'arrêter de reprendre l'écoute de cette émission. Donc n'hésitez absolument pas. C'est tout l'intérêt du site internet et des podcasts qui vous sont proposés sur le site graphite.net. L'émission donc Biotine d'aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2018. C'était la 26e conférence générale des poids et mesures fixes. Elle fixe d'une façon conventionnelle, elle définit le kilogramme, l'ampère, le kelvin et la mole. C'est assez intéressant parce que c'est en 2018 qu'on se dit « Tiens, on va vraiment définir d'une façon totalement indiscutable les quatre constantes fondamentales de la physique. » Et cette 26e conférence générale a donc lieu le 16 novembre 2018. Et il y a deux ans, après plusieurs reports, le vol d'essai sans équipage Artemis 1 de la NASA vers la Lune est lancé avec succès. C'était donc le 16 novembre 2022. Naissance, le 16 novembre 1922, de Gene Myron. C'est un informaticien et un entrepreneur américain, principalement connu pour son travail sur l'architecture des ordinateurs. Gene Myron Amdahl est né un 16 novembre 1922 et c'est un informaticien et un entrepreneur américain qui est principalement connu pour son travail sur l'architecture des ordinateurs centraux. Gene Myron Amdahl a véritablement apporté quelque chose d'assez important. Donc évidemment, c'est pas totalement traduisible d'une façon vulgarisée ce sujet-là, mais il a eu une véritable expertise et un véritable apport dans ce domaine-là. Décès le 16 novembre 1833 de René Desfontaines. Il est un botaniste français, directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Ses cours sont très populaires à René Desfontaines. Il rassemble entre 500 et 600 personnes, dont de nombreuses personnalités. Il est le premier à présenter l'organographie et la physique végétale comme devant être l'introduction nécessaire de la botanique. Il est fait membre étranger de la Royal Society en 1833. Il est membre de la Société de médecine de Paris et il passe la période troublée de la Révolution sans difficulté. Il n'hésite pas à intervenir pour sauver des botanistes. Il est devenu aveugle à la fin de sa vie et il se fait conduire dans les serres du muséum et il tente de reconnaître les plantes au toucher. C'était vraiment un passionné, René Desfontaines, qui est donc décédé le 16 novembre 1833 à Paris. Voilà pour l'éphéméride de cette émission. Pardon, je sens que ça va être... Ah, excusez-moi, mais je traîne une crève depuis un certain temps, ça commence à être pénible, j'en suis désolé, je vous prie de m'excuser. On va donc feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique avec pas mal de petits sujets assez intéressants et qui interpellent quand même. Par exemple, on va parler de nos littoraux. Les côtes européennes, dont les côtes de la France, sont impactées par la subsidence côtière. La subsidence, en fait, c'est un affaissement du sol qui a des conséquences importantes sur les côtes parce qu'en s'enfonçant, les côtes sont encore plus vulnérables au risque de submersion marine. L'élévation du niveau de la mer, qui est l'une des conséquences du réchauffement climatique, cette élévation augmente déjà le dangereux phénomène en cas de tempête, de forte houle ou de marée. Mais si le sol s'enfonce en plus, ce risque de submersion est alors décuplé. Et il y a donc une étude qui a été menée qui explique qu'il y a eu des inquiétudes quant au fait de l'affaissement des côtes et donc l'élévation relative du niveau de la mer qui tendent à être peu considérée en Europe et dans de nombreuses autres régions du monde. Et donc cette étude a été réalisée grâce au système d'observation Copernicus qui montre, je cite, que près de la moitié des zones côtières de basse latitude en Europe connaît actuellement une subsidence supérieure à 1 mm par an en moyenne. Celle-ci est aussi plus importante dans les zones plus densément peuplées, les centres urbains et là là où sont situées les infrastructures critiques. Ça veut dire quoi ? C'est que si on fait en une phrase, et c'est d'ailleurs le titre de cet article du Futura Science, les sols de nos littoraux s'enfoncent progressivement sous le poids des habitants. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir de cette information. Les zones portuaires, notamment, qui sont recouvertes de nombreux bâtiments et d'une population dense, enregistrent une subsidence de l'ordre de 1,5 mm par an en moyenne. Ce qui est énorme, parce que ça fait plus d'un centimètre en 10 ans. Et donc, ça s'enfonce au fur et à mesure. L'étude identifie aussi des zones côtières où la subsidence est sévère, avec des vitesses qui dépassent les 5 mm par an. Donc, 5 mm par an, ça fait 5 cm au bout de 10 ans. Ça fait 50 cm au bout de 100 ans. 50 cm, c'est énorme, en fait, dans ces zones-là. Et c'est vraiment un problème méconnu qui aggrave donc le risque de submersion côtière en cas de tempête ou d'inondation. Et donc, il y a un organisme qui s'appelle le BRGM qui a donc cartographié le risque sur l'ensemble de l'Europe. Donc, vous pouvez voir des cartes, justement, qui montrent un petit peu quelles sont les zones les plus concernées par ce phénomène inquiétant. Et voir, voilà, si c'est une région que vous connaissez ou pas. Mais voilà, ça s'enfonce de plus en plus à cause du poids des bâtiments, des habitants et de toutes les infrastructures qui sont installées dans ces zones très densément peuplées, bien évidemment. Là, on s'intéresse à l'Europe, mais c'est d'une façon assez générale, malheureusement, et c'est un phénomène qu'on n'a pas nécessairement totalement bien appréhendé, bien sûr. Autre sujet, des chercheurs de l'université de Southampton viennent de mettre à l'abri le code génétique humain pour la postérité et ils ont utilisé un cristal mémoire 5D. Alors, l'idée, c'est d'inscrire le génome humain sur ce support. Ça a été présenté pour la première fois il y a une dizaine d'années et cette technologie serait susceptible de durer plusieurs milliards d'années. Plusieurs milliards d'années, on pourrait conserver cette information. Le support en question, il est équivalent un peu au verre de quartz, c'est-à-dire un matériau qui va résister au gel, au feu, à des températures qui pourraient atteindre 1000 degrés. Il supporte aussi des impacts jusqu'à 10 tonnes par centimètre carré, donc c'est quand même un impact assez important. Et ça résiste aussi aux radiations cosmiques. Et les données sont gravées dans des nanostructures grâce à des lasers. Tout ça, on va utiliser un petit peu en 3D, donc on va pouvoir utiliser les coordonnées spatiales pour avoir des informations, en plus de la taille, en plus de l'orientation, d'où cette idée de cristal mémoire 5D. Et en tout, le cristal peut contenir jusqu'à 360 teraoctets de données. Teraoctets, c'est quand même déjà 1 teraoctet, c'est quand même assez important en termes de stockage d'informations. Là, on en a 360, donc ça veut dire qu'on peut vraiment mettre beaucoup d'informations sur ce support assez étonnant. Et en complément du code génétique, les chercheurs ont intégré des indices visuels inspirés des plaques des sondes spatiales pionnières. On en avait déjà parlé, où ils avaient gravé également des informations qu'ils avaient mises sur des plaques qu'on avait installées dans ces sondes. Et l'idée, c'est que ceux qui découvrent ce cristal puissent en saisir le contenu. Et l'idée, c'est que ça puisse être décodé. Quand même, il n'y aurait plus de cadre de référence après autant de temps dans le futur, parce que plusieurs milliards d'années, allez savoir ce qui va se passer, qui va récupérer cette information, comment la décrypter, parce que nous, on ne sera plus là, quelque part, dans plusieurs milliards d'années. Mais voilà, cette information, l'idée, c'est qu'elle puisse perdurer sur un temps infiniment long, quelque part. Et l'idée des informations qui sont mentionnées, eh bien, c'est de représenter les éléments universels, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote, c'est-à-dire les quatre bases de la molécule d'ADN, et de pouvoir aussi un petit peu indiquer leur emplacement dans la structure en double hélice de l'ADN, et comment elles sont positionnées dans un chromosome qui peut être inséré dans une cellule. Donc le support a été placé dans l'archive Memory of Mankind. C'est un projet de préservation des connaissances dans la mine de sel de Hallstatt, c'est en Autriche. Les chercheurs pensent qu'il sera un jour possible de reconstruire des êtres vivants simplement à partir de leur code génétique. Et ils espèrent que d'autres chercheurs, donc dans un temps très lointain, pourront utiliser cette technologie pour créer un dépôt d'informations génomiques chimiques en provenant d'organismes complexes, comme les plantes et les animaux, et qui pourraient être restaurés à l'avenir aussi. Donc l'idée, c'est quelque part, on donne la recette pour le futur lointain à la recette pour reproduire le monde vivant tel qu'il existe actuellement. Les secrets de la vie humaine gravés dans un cristal indestructible pour l'éternité. C'est ce qu'ont fait ces chercheurs britanniques de l'université de Southampton. C'est assez intéressant, je trouve que c'est assez bluffant, bien sûr, ce genre d'informations, bien évidemment. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous informer sur l'actualité scientifique avec des sites internet. Et puis parfois dans cette émission, on parle des petites brèves qu'on peut retrouver dans des revues de vulgarisation scientifique qui sont bien faites, hein, Science et Vie, Science et Avenir. Ils ont toujours des petites brèves comme ça qui sont assez intéressantes. Cette petite brève, par exemple, en médecine et principalement en neurologie. Il y a une étude qui a été menée sur plus de 200 patients qui souffraient de lésions cérébrales graves et qui ne répondaient pas physiquement, donc en clair des personnes qui étaient dans le coma. Eh bien, cette étude révèle qu'une personne sur quatre est consciente. C'est quand même assez... C'est quand même assez intéressant, parce qu'on ne s'en rendait pas compte. Hein. Lorsqu'on leur demande des mouvements physiques simples, eh bien, ils présentent des signes évidents de fonctions cognitives visibles par IRM ou par une autre imagerie qui est l'électroencéphalogramme, hein, c'est-à-dire qu'on met des électrodes au niveau du crâne et puis ça permet de révéler l'activité cérébrale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une réponse au niveau du cerveau quand il y avait ces demandes physiques simples. Un phénomène connu sous le nom de conscience cachée qui pourrait s'apparenter cliniquement à un syndrome d'enfermement. C'est donc l'université d'Harvard aux États-Unis qui a mené cette étude qui montre donc qu'un quart des personnes, dans le coma sont conscientes. C'est assez étonnant, je trouve, comme information, bien sûr. Voilà, c'est des petites brèves qu'on peut trouver dans ces revues scientifiques, et c'est totalement intéressant. Biotine, c'est donc l'émission qui parle d'actualité scientifique tous les samedis sur l'antenne de Graphite. C'est aussi une émission où on se fait plaisir en écoutant également un peu de musique.
What?
Tracy Mel, c'était Sextile sur l'antenne de Graphite, ça déménage. Hein. Moi-même, ça m'a surpris, vous voyez. Mais je découvre presque en même temps que vous la playlist de cette émission. Hein. De toute façon, c'est une surprise pour moi aussi. Et là, c'était une surprise plutôt agréable, en fait. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, mais voilà, c'était Sextile sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. On se tient informé un petit peu de la recherche scientifique dans différents domaines un petit peu partout dans le monde, des informations qui sont relayées par différents sites internet et revues d'actualité scientifique de vulgarisation, et voilà, on essaye un petit peu d'avoir un regard sur ce qui se passe actuellement, et ça nous permet un petit peu de comprendre le futur qui nous attend. Ça nous permet aussi un petit peu d'analyser le passé, et je vous avais dit en l'an 2020, que nous aurons de plus en plus d'informations liées au Covid, mais qu'il fallait du temps, bien sûr, pour essayer d'apprendre un petit peu plus d'informations, parce que la science a son temps à elle, qui n'est pas nécessairement le temps de nos sociétés. Il y a toujours un décalage, et il faut savoir être patient pour avoir des informations. Et cet article qui a été publié, et que l'on retrouve dans différents sites, et notamment Futura Science, qui revient donc sur le virus de la Covid-19, hein, virus responsable, on le sait, d'une pandémie sans précédent dans l'histoire moderne, qui a paralysé le monde entier pendant de nombreux mois, ce qui a bouleversé, on s'en souvient, nos modes de vie du quotidien. Il y a eu des millions de personnes qui ont été touchées, tant médicalement qu'économiquement, et les systèmes de santé ont été soumis à une pression totalement inédite. Cette pandémie de Covid-19 a débuté officiellement fin 2019, hein, d'où donc Covid-19. Les premiers cas de pneumonie, d'origine inconnue ont été signalés à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. L'origine du virus responsable de la Covid-19 a depuis été un sujet de controverse et de recherche active. Dès les premiers cas identifiés, on a très vite soupçonné que le virus était d'origine zoonotique. Ça signifie qu'il a été transmis aux humains à partir d'animaux, mais sans être en mesure de le démontrer. Et il y a des études qui indiquent que les chauves-souris pourraient être des hôtes naturels du virus, avec des espèces intermédiaires potentielles, comme les fameux pangolins qu'on a un peu découverts à ce moment-là, bien que cela ne soit pas encore confirmé. Aujourd'hui, il y a une équipe de scientifiques à laquelle a participé Florence Desbarres, qui est chercheuse au CNRS, à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement. Cette équipe aurait identifié les espèces animales qui pourraient avoir servi d'hôtes intermédiaires pour ce fameux virus du Covid. Ces espèces étaient présentes à la fin 2019 sur le marché de Wuhan. Nous sommes donc à Wuhan, en Chine, qui est l'épicentre de la pandémie. Grâce au séquençage génétique des échantillons prélevés sur les stands du marché après sa fermeture le 1er janvier 2020, les scientifiques ont mis en évidence la coprésence en ce lieu du matériel génétique de ce fameux virus et de celui de certains animaux sauvages. Parmi les espèces identifiées figurent notamment les chiens vivrains et les civettes, deux espèces déjà impliquées dans l'émergence du SRAS en 2002. Donc le SRAS, c'était c'était un autre virus, la grippe aviaire, et en 2002, et ces espèces étaient considérées comme facilitant le passage du virus aux humains. Les échantillons avaient été séquencés grâce à une technique assez particulière et assez précise qui a permis à l'équipe de recherche d'identifier l'ensemble du matériel génétique des organismes présents dans chaque échantillon, qu'il s'agit de virus, de bactéries, de plantes, d'animaux ou d'humains. Et l'étude révèle que la diversité génétique du virus sur le marché est représentative des premiers cas humains de Covid-19, ce qui renforce donc l'hypothèse d'une origine liée au marché. L'étude révèle également la présence d'autres virus zoonotiques. Donc zoonotiques, on est bien sur cette idée d'avoir des animaux dans le comment dire, en tant que vecteur, je vais y arriver. D'autres virus donc zoonotiques présents sur le marché, ce qui souligne le risque élevé de nouvelles pandémies liées à la vente d'animaux vivants au sein de villes qui sont densément peuplées. Et donc, identifier les activités humaines les plus susceptibles de déclencher de nouvelles pandémies est en effet crucial pour mieux anticiper et prévenir ces crises sanitaires. En conclusion, cette étude met en lumière l'importance de la recherche sur l'origine des virus zoonotiques et souligne la nécessité d'une approche proactive pour prévenir de futurs événements pandémiques. Cela comprend à la fois la recherche scientifique continue et des politiques publiques visant à réguler le commerce d'animaux vivants et à surveiller les marchés dans des zones à fort risque. Voilà. Donc, cette nouvelle étude qui mène donc une enquête sur le marché de Wuhan qui révèle les espèces à l'origine de l'épidémie et de nombreux autres virus dans le cadre donc du Covid-19. C'est une importante étude qui est assez intéressante justement parce que ça nous apporte de plus en plus d'informations sur le point de départ de tout ça. On se souvient bien sûr qu'on avait tellement entendu de choses, parfois les plus, totalement inutile, totalement farfelu possible, que il faut toujours se dire que dans ces cas-là, la science apportera une réponse. Mais voilà, la science ne portera pas une réponse tout de suite. Il y a un moment, il faut l'accepter, et c'est le cas de cette étude intéressante qui renforce l'hypothèse de départ qui était donc le point de départ de ce marché, de ces animaux vivants qu'il y avait dans ce marché. Voilà, c'était important de faire un petit peu le point sur cette information qui est parue, je crois, courant octobre, il me semble, et je n'avais pas encore eu le temps d'aborder ce sujet avec vous dans cette émission. Ces choses réparées désormais. Alors, autre sujet d'inquiétude, une nouvelle étape inquiétante qui est franchie en France, des moustiques tigres porteurs de la dengue ont été identifiés pour la première fois. En 2022, il y a 65 cas autochtones de dengue qui ont été identifiés sur le sol métropolitain, ce qui illustre la présence de moustiques infectés dans l'Hexagone. Mais pour la première fois, il y a des chercheurs qui sont parvenus à identifier des moustiques contaminés, ce qui ouvre des perspectives inédites en termes de lutte contre ces vecteurs de maladies tropicales. La dengue, c'est une maladie virale transmise par les moustiques qui suscite une inquiétude croissante en France métropolitaine. Longtemps cantonnée aux régions tropicales, cette affection fait désormais son apparition en France continentale. Les infections autochtones de dengue, c'est-à-dire touchant des personnes n'ayant pas voyagé au cours des 15 derniers jours dans une zone où la maladie est présente, ces infections autochtones ont été initialement détectés à Nice et sont restés limités au sud du pays jusqu'en 2018. Mais depuis, les cas se sont multipliés et déplacés vers le nord. D'abord vers la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019, puis l'Île-de-France en 2023. Une année 2023 qui pourrait bien changer la donne en termes de prévention. Dans la Drôme, il y a un foyer comprenant 3 cas, un cas importé et 2 cas autochtones qui ont été identifiés. Et pour la première fois, il y a des chercheurs de l'INRAE, l'Institut National de Recherche Agronomique, en collaboration avec l'Université Claude Bernard de l'Université de Lyon, qui sont parvenus à piéger des moustiques tigres contenant le virus à moins de 100 mètres de la zone de résidence des personnes infectées. Oh, je vous prie de m'excuser. Je vais y arriver. Et donc, ils ont réussi à piéger des moustiques qui contiennent ce virus. Et donc, pour les chercheurs, les moustiques auraient transmis le virus à partir du cas importé vers les cas autochtones, provoquant le foyer d'infection. Une observation qui est intéressante à deux niveaux pour les chercheurs. Premièrement, c'est que le virus de la dengue circule en France métropolitaine via les populations locales de moustiques tigres. Et deuxième information, elle propose aussi un nouveau moyen pour tracer le virus et suivre l'épidémiologie de la maladie. Cela consiste à analyser les contenus des pièges à moustiques chez les citoyens vivant autour des cas détectés de la maladie. C'est facile, c'est rapide, c'est pas cher, mais voilà, une nouvelle donc étape inquiétante, ces moustiques tigres porteurs de la dengue identifiés pour la première fois. Donc maintenant, ça se confirme de plus en plus, il va falloir se préserver aussi de plus en plus face à ces sujets assez importants. Je suis désolé. C'est pas simple pour moi, je suis vraiment désolé. Je vais continuer, je vais y arriver. Et on va essayer de savoir si vous faites partie des 50 personnes à avoir un 100 en or. Ah, c'est quoi un 100 en or ? Pour comprendre ce qui fait la rareté du 100 en or, il y a un petit rappel qui s'impose. Il existe 44 groupes sanguins. Le système le plus répandu, c'est le système ABO. Il y a donc 4 grands groupes. Le groupe A, le groupe B, le groupe O et le groupe AB. Ils sont déterminés par la présence d'antigènes, qui sont une substance capable d'engendrer des anticorps en situation d'incompatibilité. Et ces antigènes sont à la surface des globules rouges. Il y a un autre système majeur, c'est le rhésus, et dans lequel il existe 56 antigènes différents, donc soit positifs, soit négatifs, selon les individus. Et la plupart des personnes sont rhésus positifs, c'est-à-dire qu'elles possèdent des antigènes rhésus sur leurs globules rouges. Mais lorsque tous les antigènes du système rhésus sont absents au niveau de la surface des globules rouges, la personne est dite rhésus nul. Ce groupe sanguin, il est extrêmement rare puisqu'il ne concerne que quelques dizaines de personnes dans le monde. Un dernier système, c'est le système Kell, qui fonctionne lui aussi avec le côté positif-négatif. Donc ce système ABO qu'on connaît, hein, groupe A, groupe B et ainsi de suite, dans le système ABO qui est combiné au facteur rhésus, eh bien les personnes du groupe AB+ ont donc des antigènes A, des antigènes B et des antigènes rhésus à la surface de leur globule rouge et ne peuvent donner qu'aux personnes AB+ également. En revanche, elles peuvent recevoir de tous les autres groupes car elles ne possèdent pas d'anticorps anti-A ou anti-B dans leur sang, contrairement aux personnes du même groupe, des autres groupes. Et donc, on les appelle les receveurs universels, les AB+. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas donner, mais peuvent tout vous recevoir. À l'inverse, les personnes O négatif n'ont aucun antigène à la surface de leur globule rouge et peuvent ainsi donner à tous les autres groupes. On les appelle, eux, les donneurs universels. Et pour comprendre à qui un groupe peut donner son sang et duquel il peut en recevoir, rien de mieux qu'un tableau récapitulatif, bien sûr, qu'on a tous vu entre les rhésus positifs, négatifs et les différents groupes. Et du fait de l'absence totale d'antigènes, les individus rhésus nuls sont donneurs absolument universels, compatibles avec tous les groupes sanguins rares du système rhésus. En revanche, ils ne peuvent recevoir du sang que du même groupe qu'eux, ce qui leur impose d'être suivis médicalement parce que les transfusions sont quasiment impossibles à trouver dans des délais raisonnables. Tu m'étonnes, s'ils sont qu'une poignée dans le monde, c'est assez compliqué. Mais ce n'est pas le groupe le plus rare. L'établissement français du sang recense des patients ayant des types de groupes sanguins parfois uniques au monde, retrouvés chez un seul individu ou uniquement dans une fratrie. Et il est donc important de connaître bien sûr son groupe sanguin pour savoir à qui on peut donner du sang, mais également de qui on peut en recevoir. Et n'oubliez pas, bien sûr, le sang est irremplaçable, sa durée de vie est limitée, ce qui peut impliquer la nécessité de donner tout au long de l'année. Cela sauve, indique l'établissement français du sang, millions de vies chaque année en France. Et donc il y a des campagnes bien sûr de dons du sang, mais voilà, il y a donc ceux qui ont qui ne sont ni positifs ni négatifs, qui sont nuls, et ce sont eux qui ont ce sang en or. On estime voilà à peu près une cinquantaine de personnes dans le monde seraient concernées par ça. C'est quand même totalement impressionnant, bien évidemment. Allez, on va continuer comme ça, nous tenir informés et apprendre un petit peu sur les choses scientifiques dans différents domaines. On va écouter Water Lilies sur l'antenne de Graphite.
I love you.
Stella, c'était Waterlilies sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique sur votre radio curieuse, et vous avez bien raison, tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Biotine, c'est l'émission de science. On va donc un petit peu feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. Et pendant qu'on écoutait donc Stella, j'ai essayé d'identifier les différents, parce que j'en ai tellement en fait que j'essaye de piocher sur ceux qui me paraissent les plus intéressants et peut-être les plus prometteurs, en tout cas ceux qui vont nous donner un petit peu d'espoir, notamment au niveau du cancer du sein, qui est l'un des types de cancers les plus courants. Chaque année, il touche plus de 62 000 femmes en France, 12 000 d'entre elles en décèdent. Et la question, c'est et si l'intelligence artificielle pouvait prédire plus précisément le risque de développer un cancer du sein? C'est ce que suggère en fait une nouvelle étude qui a été menée par l'université de Copenhague et publiée dans la revue The Lancet Digital Health. La sénescence cellulaire, c'est un indicateur de risque de cancer. Il y a des recherches antérieures qui ont montré qu'elle joue un double rôle, à la fois antitumoral et protumoral. Et donc les chercheurs, ils ont entraîné un algorithme sur des cellules développées en culture qui ont été de façon intentionnelle endommagées pour les rendre justement sénescentes. Et ensuite... ils ont ensuite utilisé l'intelligence artificielle sur les biopsies de tissus mammaires de donneuses pour détecter les cellules sénescentes. Et résultat, eh bien, il s'avère que l'utilisation de l'intelligence artificielle s'est avérée plus efficace que les méthodes cliniques actuelles pour détecter ces cellules sénescentes et ainsi évaluer le risque de cancer du sein. D'après les chercheurs, combiner des méthodes conventionnelles et l'intelligence artificielle permettrait justement une meilleure performance, une évaluation plus précise du risque de cancer permettrait d'améliorer le suivi des patients à haut risque, d'anticiper le potentiel diagnostic et d'adapter le traitement à chacune. Et donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite que des images d'échantillons du tissu standard pour effectuer l'analyse, ce qui la rend applicable dans le monde entier. Donc c'est ça qui est intéressant. mais il faudra toutefois encore plusieurs années avant que cette technologie ne soit disponible en clinique, nous dit-on. Il y a toujours du temps, là encore, pour avoir un développement à grande échelle. Mais c'est assez intéressant de voir l'une des utilités de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que là, on est dans une amélioration du diagnostic dans le cas du cancer du sein. Effectivement, ça peut être utile, bien sûr. Et on suivra un petit peu la suite de... Excusez-moi. Je vais y arriver. On va suivre, bien sûr, la suite de cette étude. C'est pas la première fois qu'on a ce genre d'article dans cette émission. C'est-à-dire que on voit que l'intelligence artificielle peut être une véritable aide pour améliorer des diagnostics et essayer de trouver des pistes thérapeutiques beaucoup plus efficaces. Donc on a compris qu'on n'était pas encore à la veille d'une véritable révolution dans ce domaine-là, mais qu'on était vraiment sur une piste intéressante et sérieuse. Autre information, alors quelque part on s'en doutait un peu, mais on a un article qui est assez intéressant, qui revient sur ce qu'on appelle les data centers, hein, ces fameux centres de données, qui seraient bien plus polluants qu'escomptés. C'est un rapport du journal The Guardian qui pointe du doigt notamment les GAFAM, dont les centres de données numériques auraient émis 7 fois plus d'émissions entre 2020 et 2022 qu'indiqué dans les rapports officiels, soit une période qui date d'avant l'explosion d'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que 2022, on est encore aux prémices, donc on était encore dans une utilisation modérée des data centers, enfin modérée, c'est par rapport à maintenant, et c'est quand même... ça révèle quand même quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle est très gourmande en énergie. Alors Amazon est exclu du rapport, même si la firme est de loin le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, plus du double d'Apple, qui lui est deuxième, et le rapport n'a pas pu obtenir les chiffres sur les émissions spécifiques à ces data centers, tiens, comme par hasard. Le rapport concerne donc Google, Microsoft, Apple et Meta, qui est la maison mère de Facebook. L'Agence internationale de l'énergie indique qu'en 2022, les centres de données consommaient à eux seuls 1 à 1,5% de l'énergie mondiale. Quand même fascinant. C'est-à-dire que 1% de l'énergie mondiale est consommée par ces centres de données. C'est quand même quelque chose de totalement faramineux. La consommation des data centers croît de manière rapide, avec, comme on l'a dit, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Une requête auprès de ChatGPT consommerait ainsi 10 fois plus qu'une simple recherche Google, et la consommation pourrait augmenter de 160% d'ici 2030, selon Goldman Sachs. Et pourtant, les GAFAM indiquent avoir atteint la neutralité carbone. Enfin, qui nous explique un jour comment. The Guardian pointe du doigt la comptabilité créative et notamment les certificats d'énergie renouvelable. Les entreprises les achètent pour améliorer leur bilan carbone, mais cette énergie renouvelable n'est pas forcément consommée par leurs installations. Alors, selon le rapport, en calculant les émissions réelles basées sur la localisation des installations, les chiffres montrent de grandes différences. Meta a annoncé avoir produit plus de 270 tonnes d'équivalent CO2 en 2022, mais avec ce nouveau calcul, ce chiffre passe à 3,8 millions de tonnes, soit 19 fois 1000 plus. Enfin, c'est quand même fascinant, rien que pour ces centres de données. Hein. Et pour Microsoft, l'augmentation est moins spectaculaire, mais tout de même impressionnant, parce qu'on passe de, on va dire, à peu près 300 000 tonnes à 6 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc c'est quand même des chiffres vraiment importants. Ces chiffres devraient continuer de croître, et la consommation électrique des data centers devrait doubler d'ici 2030. 2030, c'est quand même dans un temps très court. Et le PDG de Digital Bridge, qui s'appelle Mark Ganzi, prévoit des pénuries d'électricité pour les data centers d'ici 2 ans, faisant écho notamment à la prédiction d'Elon Musk au mois de mars, où il disait que l'intelligence artificielle sera freinée par un manque d'électricité dès l'année prochaine. Enfin, on est vraiment sur des échelles de temps très courts, sur des échelles de consommation énergétique qui dépassent l'entendement, et on est sur un rapport qui révèle donc que ces data centers consomment plus d'énergie qu'annoncé et qui menacent le monde d'une crise électrique. Ben, c'est quand même totalement fascinant, et c'est cet article que vous pouvez regarder et suivre sur différents supports, et notamment dans différentes revues. Vous pouvez trouver ça également sur Internet. Et donc là, c'est sur The Guardian qui avait mené cette enquête, bien évidemment. Écoutez, je vous propose d'écouter un titre, parce que là, je crois que ça va être compliqué pour moi de continuer. On va écouter Chariot du groupe Free Phase, et on se retrouve juste après. On va continuer à feuilleter, mais là, je pense que c'est pas simple pour moi, et ça ne l'est pas pour vous non plus. A tout de suite sur l'antenne de Graphite. Voilà, c'était Free Phase avec Chariot sur l'antenne de Graphite. J'ai appris un peu ma voix, ça me fait du bien. Je suis désolé hein, d'être comme ça aujourd'hui. Hein. En général, ça se passe mieux hein, si vous êtes fidèle de cette émission, mais là, c'est vraiment pas simple. Mais il y a quand même des sujets assez intéressants que je voulais évoquer, notamment Aero Environment, qui vient de tester un nouveau drone stratosphérique solaire développé pour l'armée américaine. Ça, c'est intéressant toujours parce qu'au niveau de l'armée, on a très peu d'informations, bien évidemment. Mais donc là, on a au niveau des drones des informations qui nous ont été un tout petit peu communiquées. Il s'agit en fait d'une nouvelle version d'un drone qui s'appelle Horus A. Et selon donc le constructeur, ce drone est capable de voler pendant des mois, dans la stratosphère, en transportant une charge de 68 kilos, quand même pas mal, et avec une puissance disponible d'1,5 kilowatt. C'est quand même aussi assez intéressant. Et au cours donc de ce récent vol d'Horus A, nous avons démontré notre capacité à transporter plusieurs charges utiles pour le ministère américain de la Défense et à transmettre des données en temps réel, faisant ainsi progresser la viabilité du système pour des applications gouvernementales. C'est donc ce qu'a déclaré cette entreprise Aero Environment. Pendant donc ce vol d'essai, ce drone Horus A a opéré un radar à synthèse d'ouverture et une radio de réseau mesh de qualité tactique. Donc l'idée, c'est que le drone a également réussi à manœuvrer dans des conditions météo difficiles et turbulentes, donc c'est ça qui est quand même assez intéressant, avant de se poser en toute sécurité. C'est-à-dire qu'il a morflé, mais il se pose en sécurité quand même. Il sera équipé de systèmes de télécommunication, de positionnement, de navigation et de timing aussi, ainsi que de veille spatiale, de surveillance et de reconnaissance. En fait, ça va lui permettre de pouvoir guider des essaims de petits drones. Donc des essaims, on est comme dans des essaims d'abeilles ou des essaims de guêpes, c'est-à-dire des drones petits qui sont tous ensemble. Et c'est tout l'intérêt justement d'avoir une espèce de colonie de drones. L'armée américaine s'intéresse beaucoup aux plateformes de haute altitude qui sont à mi-chemin entre les drones classiques et les satellites et qui fournissent avant tout des services de surveillance et un relais de télécommunication. Et elle a déjà testé l'américaine des modèles d'autres constructeurs. Mais là, ce qui est assez intéressant, voilà, c'est que ça permet d'avoir des informations sur l'état actuel des performances technologiques de ces drones. Parce qu'on n'a pas nécessairement énormément d'informations, ce qui est totalement normal quand on parle de secrets militaires, bien évidemment. Mais là, on a eu un peu d'informations. Et vous pouvez voir aussi, il y a des vidéos qui montrent un petit peu ce qu'il est capable de faire. Mais des drones qui sont capables de voler pendant plusieurs mois avec une charge lourde, c'est quand même quelque part une performance et une efficacité qui va être aussi assez utile, bien évidemment. Alors, on continue au niveau médecine, avec notamment cette étude récente qui a été publiée dans la revue Cell Metabolisms et qui était menée sur des souris. Et l'idée, ça a mis en lumière l'impact considérable d'un acide aminé essentiel sur le processus de vieillissement. On a quelquefois dans cette émission des articles qui s'intéressent au vieillissement parce que bien sûr il y a un véritable enjeu derrière, parce que si on arrive à avoir une maîtrise totale du vieillissement des cellules, on pourrait atteindre des longévités inespérées. Et puis derrière, il y a peut-être aussi quelque part des applications d'un point de vue économique. Bon, je dis ça, je dis rien. En tout cas, là, on est sur des informations assez intéressantes de ces scientifiques qui ont découvert qu'en limitant l'apport d'isoleucine, c'est ces fameux acides aminés, si on limite l'apport d'isoleucine dans l'alimentation, il était possible de ralentir les effets du vieillissement et même d'allonger l'espérance de vie des rongeurs, parce que ça a été mené sur des souris. Ces résultats prometteurs soulèvent des questions passionnante sur la possibilité d'améliorer la longévité et la qualité de vie humaine grâce à des interventions nutritionnelles ciblées. Alors l'isoleucine fait partie des trois acides aminés à chaîne ramifiée indispensables à la construction des protéines de notre organisme. C'est-à-dire que c'est vital pour notre survie, mais cette molécule ne peut pas être synthétisée par nos cellules. En fait, on doit l'obtenir par notre alimentation. Les œufs, les produits laitiers, les protéines de soja, les viandes, néanmoins, Comme le souligne le docteur Dudley Lamling, qui est chercheur en métabolisme à l'université du Wisconsin, différents composants de notre alimentation ont une valeur et un impact qui vont au-delà de leur fonction calorique. Il y a une étude antérieure qui est basée sur des données d'enquête auprès de résidents du Wisconsin qui a révélé un lien entre les niveaux d'isoleucine alimentaire et la santé métabolique, c'est-à-dire la santé de notre corps. Et les personnes ayant un indice de masse corporelle plus élevé consommaient généralement des quantités bien supérieures de cet acide aminé. Et donc, pour approfondir ces observations, les chercheurs ont conçu une expérience impliquant un groupe génétiquement diversifié de souris âgées d'environ 6 mois. 6 mois pour une souris, c'est à peu près l'équivalent d'un humain à 30 ans à peu près. Et donc, ces souris ont été réparties en 3 groupes avec, pour chaque groupe, un régime alimentaire spécifique. Donc il y avait un groupe qui était un peu un groupe témoin qui contenait les 20 acides aminés communs que l'on a tous. Un groupe qui avait un régime dans lequel tous les acides aminés étaient réduits d'environ 2/3. Et un troisième groupe dans lequel on avait un régime où seule l'isoleucine était réduite dans les mêmes proportions, c'est-à-dire réduite de 2/3. Et tous les autres acides aminés étaient à un niveau équivalent. Les souris pouvaient manger à volonté, mais uniquement la nourriture attribuée à leur groupe, bien sûr, pour ne pas fausser les résultats. Et ces résultats de cette étude se sont révélés stupéfiants. La restriction en isoleucine a non seulement augmenté l'espérance de vie des souris, mais a également amélioré leur qualité de vie. Les chercheurs ont observé une réduction de la fragilité, une amélioration du contrôle de la glycémie, un maintien de la masse musculaire et une diminution de la perte de poils. Et de façon surprenante, les souris soumises à ce régime ont consommé plus de calories que les autres groupes. Pourtant, elles ont brûlé davantage d'énergie, elles ont maintenu un poids corporel plus léger, sans modification de leur niveau d'activité physique. Chez les mâles, on a également constaté une réduction de l'hypertrophie de la prostate liée à l'âge et également une diminution du risque de développer des tumeurs cancéreuses. Alors, ces résultats sont bien sûr prometteurs, mais attention, le fait de transposer tout ça à l'homme, ça reste un défi vraiment complexe. Le docteur Lanning souligne que, je cite, « Nous ne pouvons pas simplement mettre tout le monde à un régime pauvre en isoleucine. En effet, l'alimentation humaine implique des interactions chimiques complexes et une restriction généralisée des protéines pourrait avoir des effets néfastes sur la santé. » C'est-à-dire qu'en clair, ne prenez pas un régime pauvre en isoleucine, vous allez avoir des complications. Les chercheurs envisagent plutôt en fait, le développement d'interventions pharmaceutiques comme un médicament qui pourrait bloquer l'isoleucine. Pourtant, il y a des études supplémentaires qui seront quand même nécessaires pour affiner les dosages et comprendre, bien sûr, les variations potentielles entre les individus et entre les sexes, bien sûr. Cette découverte, en fait, elle est assez intéressante parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension du vieillissement et pourrait, en fait, à terme, révolutionner notre approche de la longévité humaine. Alors, en attendant, bien sûr, cette étude nous rappelle l'importance cruciale d'une alimentation équilibrée et adaptée à nos besoins individuels, bien évidemment. Mais on a quand même une piste assez intéressante. C'est souvent le cas dans cette émission. On a des informations qui nous donnent des pistes assez inédites, assez intéressantes. Mais il faut quand même du temps après pour pouvoir avoir une déclinaison au niveau de l'être humain, bien évidemment. Donc on aura sûrement l'occasion dans quelques années de revenir sur ce sujet-là. Mais au niveau de l'isoleucine, c'est pas la première fois qu'on en parle de l'isoleucine dans cette émission pour des informations liées au vieillissement. Il y a vraiment des choses qui se passent au niveau de ce domaine-là, bien évidemment. Allez, on écoute un dernier titre et puis on va se dire au revoir après sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Des pépins pour les fonctionnaires, pour les intérimaires, pour les allocataires. Des pépins pour les ouvriers, pour les gars du chantier et pour les licenciés. Des pépins pour les infirmiers, pour les sans-papiers, pour le bal des ratés. Des pépins, mais pour les actionnaires, pour les publicitaires des pépites. Pero eso sí, desde el principio, los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso.
ni la voluntad, ni los sueños, ni las revoluciones. Pero es así desde el principio. Los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso. Des pépins pour les paysans, pour les artisans, pour le bâtiment. Des pépins pour tous les feignants, pour les manifestants et les immigrants. Crève de faim pour les Africains, pour les musiciens, pour les clandestins. Des pépins, mais pour l'armement et pour les influents des pépites.
Des pépins, c'était ma valise sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On va se quitter avec ces trois dernières petites informations. La première concernant la neurotechnologie. C'est l'université de Washington qui nous donne cette information. Ils ont fait une recherche sur 60 patients tétraplégiques. Il y en a 43 qui ont regagné en partie la maîtrise de leurs bras et de leurs mains grâce à un dispositif non invasif d'électrodes posées sur la peau autour de l'endroit où leur moelle épinière est lésée. Et donc, à la différence des autres essais de la start-up Onward qui ont permis à des paralysés de retrouver en partie l'usage de leurs membres et notamment de leurs jambes, eh bien là, on est sur un principe d'électrostimulation qui ne nécessite pas d'intervenir chirurgicalement pour poser les électrodes sur la moelle épinière. C'est vraiment important. Et donc, ces paralysés retrouvent l'usage de leurs bras grâce à des électrodes. C'est totalement fascinant. Autre chose, là, c'est l'université de Chicago, cette fois aux États-Unis, qui nous apprend que des expériences en laboratoire suggèrent que l'eau de pluie a contribué à la formation des premières parois des cellules. L'idée, c'est de pouvoir mettre en capsule des brins d'ADN qui flottaient dans une espèce de soupe primordiale. Nous sommes il y a 3 milliards 800 millions d'années sur Terre. C'est une étape cruciale pour que ce matériel génétique brut forme les premières cellules capables d'évoluer. L'eau de pluie à l'origine de la vie, c'est ce que nous apprend cette étude de l'Université de Chicago. Enfin, l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni fait des études au niveau des animaux et au niveau des aigles criards, qui sont des grands rapaces migrateurs de l'Est de l'Europe. Ils sont habitués à rejoindre chaque année les sites de reproduction au sud de la Biélorussie. Eh bien, cette étude a montré que ces aigles ont modifié leur parcours depuis le début de la guerre en Ukraine. Et les oiseaux, ils évitent les villes et ne font plus d'escale dans le pays. Ils évitent l'Ukraine pour aller migrer au sud de la Biélorussie. Ils ont compris que ce n'était pas une zone paisible en ce moment. Même les aigles criards. Voilà, c'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Je m'excuse pour la voix, c'était pas simple aujourd'hui, je suis désolé. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour pouvoir on va pouvoir prendre notre temps encore pour pouvoir feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique comme tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Je vous remercie pour votre fidélité et votre attention et on se retrouve samedi prochain sur le 94.9 pour la Vande FM et graphite.net sur l'antenne bien sûr de Graphite. Vous pouvez toujours récupérer les podcasts de toutes les émissions, bien évidemment, n'hésitez pas bien sûr, et de rester fidèle comme ça à notre radio. On se retrouve samedi prochain, je vous souhaite de passer une très bonne journée et une très bonne semaine. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.